c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Il était une fois dans une galaxie lointaine, très lointaine. Vous l'avez compris, avec cette intro, je vais vous parler d'un jeu avec la franchise Star Wars. Mais aujourd'hui, vous n'incarnerez pas Rey ni Luke Skywalker. Non, vous n'incarnerez pas de gentil. Vous allez choisir l'un des méchants de la trilogie. Bienvenue dans Star Wars Villainous, le dernier en date de la franchise Ravensburger Villainous. Alors la franchise Villainous a commencé dans l'univers de Disney, qui compte maintenant 5 extensions, puis a évolué vers l'univers Marvel. Et bien désormais, vous allez jouer le rôle de l'un des 5 méchants de différentes époques de la saga Star Wars pour voir qui sera le meilleur méchant. Comme dans Disney, on va retrouver les mêmes mécanismes du jeu. Chaque méchant a une condition de victoire et un style de façon de jouer différent. Alors au début du jeu, chaque joueur choisit un personnage à jouer avec un plateau de joueurs personnalisé, un personnage 3D, un deck méchant, un deck destin ainsi qu'un guide de personnage. Le guide explique les conditions de victoire et le style de jeu spécial du personnage choisi. Alors le plateau joueur a différents emplacements affichant des actions communes à tous les joueurs. Les actions vont vous permettre de gagner des jetons d'ambition, des crédits, de jouer et de gérer les cartes de votre main ou encore d'activer les capacités spéciales et de jouer avec d'autres joueurs en utilisant des actions de destin. Les actions de destin vous permettent de tirer des cartes du paquet de destin d'un autre joueur rempli de héros et d'autres événements pour rendre les objectifs finaux bien plus difficiles à atteindre. Les cartes de héros bloqueront les actions sur le plateau des joueurs, ce qui rendra ces espaces moins efficaces. Là, pas trop de changements, on reprend la même mécanique de Villainous. Chaque méchant a une condition de victoire particulière. Exemple, Kylo Ren ne peut gagner le jeu qu'une fois pleinement engagé du côté obscur. Ren utilise un tracker pour se déplacer vers le côté obscur et peut être contrecarré par des événements et des personnages du Dead Destin le rapprochant de la lumière. Le général Grievous, lui, se concentre sur la défaite des Jedi et la collecte des sabres laser. Son deck de destin est plein d'ennemis qu'il doit vaincre et le deck de méchant l'aide à les débusquer. Darth Vador, comme dans la trilogie, la mission de Vador est d'attirer un Luke Skywalker dans la chambre de l'Empereur et finalement donc du côté obscur. Alors faisons maintenant un tour des nouveautés de ce Villainous et notamment les véhicules. Oui, les cartes véhicules se trouvent à la fois dans les decks méchants et destins et sont jouées dans le Deep Space sur les plateaux de joueurs lorsqu'ils arrivent dans le jeu. Les véhicules méchants donnent aux joueurs un nouvel emplacement avec des actions et des capacités spéciales et les véhicules ennemis peuvent bloquer les actions du méchant et réduire la taille de la main d'un méchant. Autre nouveauté, c'est l'ajout d'ambition et de crédit à la place des jetons pouvoir du jeu original. L'ambition et les crédits sont utilisés pour jouer différentes cartes et pour activer des capacités sur certains alliés. Alors le matériel est top, sur les cartes on va retrouver les différents personnages du film, on pourra les voir dans des decks différents à plusieurs époques du film pour les amateurs de Star Wars. Si vous n'avez jamais joué à Villainous, c'est parfait pour commencer. Pour les fans de Villainous, c'est bien, foncez pour continuer votre collection. D'ici quelques instants, on va retrouver Morgan du carnet des geekeries qui va nous emmener dans les étoiles.
C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et on va rester dans les étoiles pour ce week-end ludique avec Morgan. Salut Morgan.
Salut.
Alors aujourd'hui, on va parler de jeux avec des étoiles. C'est Stella pour commencer.
C'est là, on commence du coup par Stella Dixit Universe, un jeu de Gérald Catio et Jean-Louis Roubira, illustré par Jérôme Pellissier chez Libellude. Vu son nom, vous vous en doutez sûrement, mais on est sur un jeu dans l'univers de Dixit, un jeu compétitif d'interprétation d'images. C'est un célèbre jeu qu'on ne présente plus, Dixit, mais ici, on va incarner des chasseurs d'étoiles et en fait, pendant 4 manches, on va tenter de réaliser un maximum d'étincelles pour l'emporter. Donc chaque joueur va avoir devant lui un petit plateau personnel et les cartes Dixit du coup seront installées au centre de la table. Il y en aura 15 de visibles et on va révéler un mot et chaque joueur va secrètement cocher sur son plateau les cartes qui pour lui correspondent au mot qui a été révélé. Mmh. En fait, on a un mélange de collaboratif compétitif parce qu'en fait, on va devoir faire en sorte que les images soient aussi celles que les autres joueurs ont choisies.
Ouais.
Sans en cocher trop non plus, puisque ça peut être un désavantage. Une fois que cette étape a été faite, chaque joueur va révéler l'un après l'autre une carte qu'ils ont désignée, qu'ils ont cochée du coup sur leur plateau. Si elle a été choisie par plusieurs autres joueurs, chaque joueur va cocher deux étincelles. Par contre, s'il n'y a qu'un seul autre joueur qui l'a fait, c'est une super étincelle qui se crée. Et dans ce cas-là, les deux joueurs vont concernés vont cocher trois étincelles. Donc là, c'est vraiment quand on arrive à être en raccord avec une seule personne, on a le petit bonus en plus. Par contre, si personne n'a coché, le joueur il fait une chute et il ne désignera plus de cases pour toute la manche. Donc si en prime, c'est celui qui avait coché le plus de cases sur son plateau, il va perdre une étincelle. Donc voilà, faut rester prudent sur ce qu'on coche ou non. On va remplacer après plusieurs cartes avant de passer à la seconde manche. Et en fait, on va faire ça pendant 4 manches. le joueur qui l'emportera, bah, c'est celui qui aura fait le plus d'étincelles. Là, avec Stella Dixit Universe, on est vraiment sur un univers qui nous rapproche de Dixit avec l'association de mots et d'images. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la subtilité supplémentaire de devoir choisir les images que les autres ont choisies. On pense pas forcément pareil selon les mots. On verra que certaines choses que d'autres ne verront pas.
Mais oui.
Voilà, l'interprétation d'une image, elle est vraiment propre à chacun, en fait. Et c'est vrai qu'on le ressent bien dans Stella. C'est aussi le jeu qui va mettre de l'ambiance parce qu'on va essayer de justifier ses choix qui sont parfois un peu tordus. Des choix qui n'ont pas été choisis, mais du coup, on va quand même essayer de se justifier un peu. On aura aussi peur de se planter dès la première carte. Alors, c'est vrai qu'on va essayer de trouver les cartes les plus logiques, les plus évidentes pour marquer quand même quelques points. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois, il y a des raccords complètement différents. Enfin, c'est vrai qu'il faut avoir pas mal d'imagination sur certaines phases. Et puis, il y a la fierté de créer une super étincelle quand on en réalise une en trouvant une carte avec un seul adversaire et du coup qui nous fait plus de points. L'avantage aussi, c'est qu'on peut jouer avec toutes les cartes de Dixit,
ouais,
de Dixit, même les extensions, voilà, même la prochaine édition Disney qui arrive en septembre, du coup, peut jouer avec toutes ces cartes-là. Donc c'est vrai que du coup, on a des parties à l'infini, en fait, on peut rejouer tant qu'on veut. Après, c'est vrai que parfois, les mots, ils n'ont pas forcément de rapport avec les images proposées, donc ça permet de pousser un peu plus le côté imagination. Mais voilà, on va essayer de se justifier toujours comme on peut. C'est là, pour moi, c'est aussi du chouette matériel qui donne vraiment envie de jouer, qui le rend vraiment agréable à jouer. On est dans l'univers de Dixit, mais c'est vrai qu'on reste sur un jeu qui est bien différent, avec la gestion de prise de risque dans le choix des cartes. C'est jouable en famille, même avec les plus jeunes, sans problème, ça reste de l'association mots-images. Et c'est vrai que le format accessible, ça te permet de jouer avec un maximum de personnes, c'est intergénérationnel, en fait.
Bilibilude, sont quand même les spécialistes de l'interprétation d'images.
C'est vrai que j'avais un peu peur au début, comme c'était dans le même univers. Je me suis dit, ça va être un Dixit numéro 2, est-ce que c'est un intérêt ou
différent.
Pas. Et en fait, c'est différent et c'est vraiment sympa. Je sais qu'à l'école, on l'a joué avec les enfants et ils s'éclataient dedans, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment très, très sympa.
Et on attend forcément Dixit Disney,
oui,
qui est prévu pour le tout début du mois de septembre.
C'est ça.
Voilà. Tu as vu quelques images déjà, je suppose.
J'ai vu la boîte entière même.
Mais oui, la boîte
à
entière.
À Paris Élysée, il y avait la boîte entière avec les cartes. Alors, on n'a pas pu prendre de photos, mais il y avait toutes les cartes. Elles sont sublimes. Elles ont été juste créées pour l'occasion.
Ouais.
Et en fait, la petite subtilité, c'est que la personne qui a travaillé avec Libellude est fan de Dixit.
Ah.
Donc en fait, elle connaissait le jeu chez Disney. Hein, la personne qui bossait chez Disney, elle connaissait le jeu. Et du coup, ça a permis de donner
simple,
un peu plus de liberté pour mettre des émotions dans les images, parce que c'est pas toujours évident de garder l'univers de Disney et de rajouter des émotions en ayant le droit de faire ce qu'on veut.
Ouais. T'as réussi justement à retrouver les dessins animés de Disney, je suppose, avec les cartes. Tous
Ouais, elles sont sublimes. Franchement,
ouais.
elles sont sublimes. Et même le matériel, il y a les petits meeples. Ils sont trop beaux, ils sont en forme de personnages.
Ouais, ceux-là, je les ai vus à Cannes, effectivement. Ils sont très, très beaux. Donc, Dixit Disney, à ne surtout pas manquer. Hein, ça sort début septembre.
Oui.
Un autre jeu où on part dans les étoiles, c'est un petit peu différent. Là, on est avec Look at the Star.
C'est ça. Donc, Look at the Star, un jeu de Romain Catardian, illustré par Adrien Lecoz chez Bombix. Là, on est sur du flip and white, où on va devoir former des constellations de tailles différentes en reliant les étoiles sur notre ardoise noire. En fait, on a des ardoises qui sont noires, on va jouer avec un feutre blanc, donc déjà rien que là c'est un peu original.
Ouais.
Et en fait, en début de partie, on va chacun récupérer son ardoise qui représente du coup la voûte céleste, et on va créer trois piles de six cartes nuits. Et à chaque tour, on va révéler une carte en fait qui va contenir une forme de deux lignes qu'on doit reproduire sur notre plateau exactement de la même façon. Ces lignes, elles doivent toujours relier deux étoiles adjacentes, que ce soit orthogonales ou diagonales. Du coup, on va pouvoir les pivoter dans tous les sens, les cartes. Par contre, on pourra pas les mettre en miroir. Donc ça, c'est un peu la subtilité. Sauf que le soleil, il finit toujours par se lever. Et donc, dès que la première pile de cartes nuit, elle est terminée, on pourra plus créer d'étoiles, en fait, sur les deux dernières lignes du plateau. Donc, petit à petit, la nuit, elle va partir. Donc, on sait que les deux dernières lignes, on pourra pas. Idem, quand la deuxième pile sera terminée, on pourra plus rien cocher sur les quatre lignes du bas au total. On va aussi avoir la possibilité de créer des étoiles filantes qui rapporteront aussi des points en fin de partie. La partie, elle va se terminer quand les 18 cartes auront été jouées. Et en fait, on va compter les points à ce moment-là. On va commencer par les constellations, puisque toutes les cartes qu'on aura tracées vont finir par faire des constellations. Elles doivent contenir au minimum 3 lignes, au maximum 8. Et donc, en fonction, vous aurez 3 points au minimum et 8 points au maximum. C'est un point par ligne qui est contenu dans la constellation. Mais par contre, vous pourrez scorer qu'une seule fois chaque format de constellation. Donc, si vous avez deux constellations de 7 lignes, vous allez en scorer qu'une seule. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on va essayer d'avoir des constellations de tailles différentes pour toutes les scorer. On va aussi pouvoir scorer les planètes qui, en fonction du nombre de constellations qui sont autour, vont apporter des points. Il y a des constellations bonus aussi, il y a des cartes bonus qui sont révélées. Si on arrive à faire exactement les mêmes formes, eh ben, on va pouvoir scorer aussi ça. On est vraiment sur de l'optimisation hein, du placement d'étoiles sur ce plateau, parce que bah, petit à petit, on va pouvoir en mettre de moins en moins comme on veut. Enfin, c'est vrai que les cartes, les formes ne rentreront pas toujours où on veut. Ça reste un jeu qui est très très accessible, avec des règles simples, mais sans être simpliste pour autant, parce que voilà, on a vraiment le mélange entre jeu de détente et jeu de stratégie, parce que bah, voilà, c'est faut arriver à les placer correctement, à scorer en même temps. On est sur du flip and white, on retourne la carte, on reproduit la forme sur le plateau, ça fonctionne toujours bien. Mais c'est vrai que voilà, le petit coup de pression avec le soleil qui se lève, et on sait qu'on doit se forcer à vite mettre nos formes en bas pour ne pas perdre la zone, parce que voilà, ça reste quand même une grosse zone, donc voilà, on essaye de faire ça rapidement, mais voilà, petit à petit, bah, ça va être de plus en plus dur à mettre les formes qui sont demandées. On n'est pas obligé de les mettre
non,
à chaque tour,
ouais, on n'est pas obligé,
mais, mais voilà, mais c'est, faut quand même essayer de créer nos constellations, donc il va falloir réussir à faire ces lignes. Côté matériel, bah, rien à dire, hein, c'est dans le thème. On crée nos constellations en blanc sur un tableau noir, donc c'est assez original. Il y a vraiment un look qui sort du commun. C'est vrai que quand tu vois la boîte, ça fait très sobre et chic à la fois.
Ouais.
C'est vraiment la petite boîte noire, vraiment très très jolie. Moi, j'ai un petit bémol dessus, c'est souvent lié de toute façon au flip roll and white, c'est qu'il n'y a aucune interaction. Voilà, du coup, on peut y jouer en solo sans aucun problème. Je pense que ça aurait été sympa de rajouter aussi une interaction à la Cartographers, où on sabote un peu le truc de l'adversaire.
Ouais, enlever l'étoile, tu vois.
Voilà, c'est ça. Ou alors une course à l'objectif façon Welcome to.
Ah oui,
mais
aussi,
voilà, c'est des petits formats que j'aime bien voir dans les flip and white, et là c'est ce qui manque. Mais voilà, ça reste un jeu qui est quand même très agréable à jouer, qui est hyper accessible, les règles elles sont hyper simples. Mais voilà.
Et il n'a pas eu le succès qu'il mérite, Look at the Star, mais bon, il y a tellement, tellement de sorties que c'est compliqué. Hein.
Ouais, et puis il est sorti dans une grosse période flip and white, donc
ouais, y a
je
ça.
Pense qu'il est un peu passé sous les radars aussi, ouais.
Puis il est sorti chez Bombix presque en même temps que Sea Salt and Pepper qui lui cartonne.
Ouais.
C'est donc c'est vrai que c'est pas évident comme ça de mettre en avant deux jeux. Et pourtant, en général, chez Bombix, hein, ils savent faire de très très bons jeux.
Ouais, bah, il est vraiment très très chouette. Ouais. Enfin, c'est vrai que le format est super et puis il est magnifique. Enfin, moi, je le trouve très très beau. Ils ont poussé le thème à fond en fait. Tu crées tes constellations, mais ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas eu le succès. Succès escompté.
Voilà, eh bien, Morgane, tu nous as fait voyager dans les étoiles ce
c'est
matin, avant le week-end. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de loup.
D'accord, ça marche. Et on parlera de loup.
Salut.
Salut, bon week-end.
Toi aussi.